Mélomanie. Mélomanie, le rendez-vous des mélomanes, une émission proposée et animée par Éric Dupri.
Bienvenue à l'écoute de Mélomanie pour le 250e numéro de votre magazine dédié à l'actualité musicale classique toulousaine et régionale. Nous sommes de nouveau au beau milieu d'une période d'intense activité sur le front des événements musicaux. La 8e édition du festival Musique au Palais a eu lieu au Palais Niel à Toulouse ce week-end. Les représentations de la nouvelle production de Boris Godounov sont toujours en cours à l'Opéra National du Capitole, dans la mise en scène d'Olivier Py jusqu'au dimanche 3 décembre. D'autres grands rendez-vous se profilent cette semaine, notamment le retour très attendu de Tarmo Peltokoski à la tête de l'Orchestre National du Capitole, samedi à la Halle au Grain avec Renaud Capuçon, soliste invité pour faire bonne mesure. Et il y a encore bien d'autres concerts à noter sur vos agendas, on ne sait plus trop où donner de l'oreille ces temps-ci, il va falloir faire des choix qui ne seront pas toujours faciles. Pour vous aider à les faire en toute connaissance de cause, je peux encore compter aujourd'hui sur l'érudition de Serge Chauzy, cofondateur et rédacteur du site Classique Toulouse, chroniqueur pour le site Culture 31 et le journal La Voix du Midi, avec qui nous allons tout de suite revenir sur l'actualité musicale récente, Retour arrière.
Mélomanie, Retour arrière.
Bienvenue à vous aussi Serge et merci d'être fidèle au rendez-vous parce que nous avons du pain sur la planche. Nous commençons par un retour sur le concert donné par l'ensemble Pygmalion sous la direction de son chef et fondateur Raphaël Pichon, mardi dernier à la Halle au Grain, concert de la saison des grands interprètes dont le programme était consacré à Bach, surtout à Jean-Sébastien et un peu à Jean-Christophe.
Très peu à Jean-Christophe, mais c'était important. Alors Bach, je dois dire que Bach selon Pygmalion... c'est une merveille. C'est de l'ombre à la lumière au cours de ce concert. Ça a été vraiment exceptionnel. J'emploie pas souvent ce terme exceptionnel, mais je crois que c'est un des plus beaux concerts auxquels j'ai assisté dans la saison, jusqu'à maintenant. Donc, vraiment magnifique. Alors, c'était du Johann Sebastian, évidemment, mais également, donc, Johann Christoph, qui est...
C'est un oncle, non ? Ou un cousin germain, je ne sais
oui,
plus.
Oui, c'est un parent, un cousin de son père.
Voilà.
Du père de...
Ça doit être un cousin germain du père de Jean-Sébastien
Bach. Exactement. Et d'ailleurs, c'est par lui que le concert s'est ouvert, sur un motet a cappella, chanté par le chœur, Mit Weinen hebt sich an. C'est-à-dire, c'est vraiment le fond de l'abîme en quelque sorte, hein. C'est vraiment un motet extrêmement triste, qui signifie avec des pleurs commence cette vie pitoyable. Ouais, ça commence vraiment dans l'ombre. Hein. Et là, on a pu entendre les qualités extraordinaires de ce chœur, qui est non seulement un chœur d'un équilibre entre les voix idéal, d'une prononciation, on comprend tous les mots en allemand évidemment, qu'il prononce parfaitement, et c'était vraiment très très beau. Et c'est suivi d'une autre cantate, celle-là de Jean-Sébastien Bach, dont le titre est « Es ist nichts Gesundes an meinem Leibe », c'est-à-dire « Il n'est rien de sain en ma chair ». Vous voyez que c'est toujours dans le même esprit, tragique en quelque sorte, d'une profondeur incroyable, et donc c'est une merveille. Et là, on a fait connaissance avec un quatuor de solistes vocaux, là aussi de tout premier plan. Vraiment des gens formidables, avec la soprano Maëlys de Villoutré, la mezzo-soprano Lucille Richardot, le ténor Laurence Kilsby et le baryton basse Christian Himmler. Donc, quatre chanteurs formidables, mais je voudrais souligner surtout la qualité incroyable du ténor, qui est un ténor américain, Laurence Kilsby. C'est vraiment l'idéal vocal de ce répertoire. C'est un timbre d'une finesse angélique, un art de la vocalisation absolument parfait et un sens profond du phrasé, sans parler de la prononciation lui aussi, qu'il manie avec aisance. Donc, une merveille. Et je crois que vraiment ce ténor, à mon avis, c'est une découverte. Une authentique découverte qu'il faudra espérer revoir à Toulouse. Et puis ensuite, ça a été une série de cantates, alors vers la lumière cette fois, de cantates bien, bien plus optimistes, donc en quelque sorte, avec « Unser Mund sei voll lachen », c'est-à-dire que notre bouche soit pleine de rire, et « Erfreut euch, ihr Herzen », réjouissez-vous, les chœurs. Et puis, ça s'est terminé dans les cantates de Bach par Ein Festburg ist unser Gott, donc un château solide est notre Dieu. Là aussi, vraiment, avec une succession d'airs, d'arias, de duos entre les solistes vocaux, de vraies merveilles. Et puis, les enchaînements, Raphaël Pichon les a particulièrement soignés. On passe d'une cantate à l'autre de manière naturelle. Il n'y a pas forcément d'interruption, d'ailleurs, quelquefois oui, quelquefois non. Et là, pour la fin, après la dernière cantate, il a enchaîné sans arrêt avec le Sanctus de la messe en si. Bon, on connaît la jubilation de ce Sanctus, qui vraiment s'enchaîne parfaitement. Alors là, c'est du latin, mais c'est parfait, la manière dont les choses se sont enchaînées. Alors, je voudrais souligner aussi la qualité instrumentale de l'orchestre, un orchestre de plus de 30 musiciens quand même, un orchestre fourni, avec notamment la remarque concernant les trompettes. Il y a trois trompettes, il y a également trois trombones, mais les trompettes, alors ce sont des trompettes naturelles. Oui. Ils jouent, tous les instrumentistes de cet ensemble jouent sur instruments anciens, bien sûr, et là c'est des trompettes naturelles. Une virtuosité du trompettiste principal qui s'appelle Mark Bennett, je tiens à donner son nom, qui est une merveille, hein, vraiment là aussi, avec une aisance incroyable, une virtuosité à la fois du son et des vocalises en quelque sorte, hein, à la trompette, et c'était très étonnant. D'ailleurs, quand à la fin, Raphaël Pichon l'a fait lever, ça a été une ovation de toute la salle, puisqu'évidemment c'est très spectaculaire, hein, l'introduction des trompettes dans ces cantates joyeuses en quelque sorte. Vraiment un grand bravo, avec un répertoire qui semble aller comme un gant, aussi bien Raphaël Pichon qu'à ses deux phalanges, le chœur et l'orchestre. Et donc j'avais même dit que ce répertoire semble couler dans ses veines. On a cette impression, vraiment.
C'est un répertoire auquel il se confronte maintenant, oui, depuis pas mal d'années, Raphaël Pichon. Eh bien, vous en avez parlé, le Sanctus est un des plus beaux moments de la messe en si, BWV 232 de Jean-Sébastien Bach. Il était au programme du concert donné par l'ensemble Pygmalion le 21 novembre à la Halle au Grain. Le voici donc dans une version dirigée bien sûr par Raphaël Pichon. Le Sanctus de la messe en si, BWV 232 de Jean-Sébastien Bach, dans une version de l'ensemble Pygmalion, sous la direction de Raphaël Pichon. Prochain concert de la saison des grands interprètes, le 1er décembre, avec l'Orchestre Symphonique de Francfort. Nous allons vous le présenter en seconde partie d'émission. Retour maintenant sur la 8e édition du Festival Musique au Palais, qui s'est donc tenu ce week-end au Palais Niel. Une édition 2023 placée sous le signe de la Belle Époque. La musique et les compositeurs de cette période faste pour l'art français en général Cathédrale étant au centre de la programmation, il y a eu deux après-midi de trois concerts chacun et nous avons assisté aux six Serchiosi. Nous n'avons d'ailleurs pas été les seuls puisque presque tous affichés complets. Ouais. Succès public donc et belle réussite artistique dans l'ensemble, Serge.
Oui, oui, absolument. Alors il ne faut pas oublier qu'à ce festival participent aussi bien des artistes consacrés, de grands artistes internationaux et également de grands amateurs et puis des tout jeunes qui débutent. Et donc on a eu les trois populations en quelque sorte mélangées et donc ça s'est très très bien passé avec une première série le samedi 26 novembre, donc avec un premier concert à 14h30 qui développait le thème original Point de repère. Alors de repères, puisqu'il s'agissait d'œuvres de Gabriel Fauré, de Claude Debussy, de Camille Saint-Saëns, bon, trois grands compositeurs.
Les grands de la période.
Voilà, les grands de la période, donc. Et je pourrais dire à tout seigneur, tout honneur, le concert s'est ouvert sur le magnifique, sublime quatuor à cordes de Debussy, avec le quatuor notturno, Qiu Yanning et Julie Guédon-Joly au violon, Samuel Joly à l'alto et Benoît Chapeau au violoncelle, autant de musiciens que l'on connaît bien.
Ils sont tous au Capitole. Hein,
et voilà. Oui, tous membres de l'orchestre, donc. Et alors, ils s'y sont investis avec beaucoup de passion. Ça a été suivi d'une série de duos, de pièces, et de pièces pour piano, d'ailleurs, avec d'abord la fameuse élégie pour violoncelle de Gabriel Fauré, par Benoît Chapeau, et un tout juste pianiste qui s'appelle Léo-Maxime Fabrice et qui a également accompagné la flûtiste Leslie Richmond dans Pavane, pour flûte et piano, du même Gabriel Fauré. Et puis, on a eu deux pièces de Claude Debussy, deux pièces pour piano, l'arabesque numéro 1 et l'île joyeuse, jouées, on peut dire, avec vigueur par Ariel Sirat, pianiste que l'on connaît bien aussi, qui était
grand amateur confirmé, si on peut dire.
Oui, confirmé, oui, absolument. Et puis, cette première session, dont s'est achevée sur Le Cygne, pièce emblématique évidemment du Carnaval des animaux de Saint-Saëns, jouée encore une fois par Benoît Chapeau, avec le jeune pianiste toujours Léo-Maxime Fabrice.
Ouais, alors Point de repère, c'est aussi parce que c'était en quelque sorte des tubes de la période, voilà. Hein, les grands compositeurs, mais aussi des tubes, hein, Le Cygne, l'Élégie, la Pavane, tout ça bien sûr. Une très belle rampe de lancement hein, pour le festival. Excellent. Et ça a été enchaîné par un deuxième concert à 16h30, auquel Serge Chechevski était donc à la fois le président et le directeur artistique du festival, avait donné le titre très bien choisi, j'ai trouvé, des maîtres grands et petits.
Oui, 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 oui. Alors il y a de grands noms comme Debussy, évidemment, comme
Maurice Ravel, bien sûr.
Maurice Ravel, bon, évidemment, sur les deux grands piliers en quelque sorte. Et puis des noms moins connus comme Gabriel Pernet qu'on connaît un peu, mais Benjamin Godard qu'on n'entend pas très souvent. Hein. Et puis du Albéniz également avec la Fête Dieu à Séville et suivi par la Pavane pour une infante défunte de Ravel, donc joué toujours par Ariel Sirat. Et donc cette session s'est conclue avec vraiment une brillante exécution des Jeux d'eau de Maurice Ravel et du Nocturne numéro 4 de Fauré, toujours par le jeune pianiste François Schwarzentruber, qui a vraiment du talent.
Autre grand amateur éclairé.
Oui. Et oui, grand amateur avec talent, et donc très bien. Et puis enfin, le troisième volet de cette première journée, alors réunissait des artistes de premier plan, bien connu à Toulouse. Et le titre, d'ailleurs, était relatif au principal des interprètes, qui était François Dumont, le pianiste. Le titre étant « François Dumont, concert entre amis ». Et c'est exactement ce qui s'est passé avec, comme duo initial, la fameuse sonate de Claude Debussy, violon-piano, avec Christy Giesi, que l'on connaît bien,
magnifique.
Super soliste de l'orchestre, qui a encore une fois démontré la qualité de son jeu, qui se mariait parfaitement avec celui du pianiste. Donc, vraiment, limpidité, sensibilité, c'était un très beau moment.
Deux grands musiciens ensemble, comme ça, ça ne pouvait être que merveilleux, et ça l'a été, vraiment.
Ça l'a été. Hein. Et puis, la seconde partie, alors, a révélé un chef-d'œuvre de la musique de chambre de cette époque, trop rarement offert au public, parce que c'est une formation peu habituelle, c'est celle du concert opus 21 d'Ernest Chausson, ce grand compositeur, ami de Claude Debussy, dont l'affaire accidentelle est très bizarre, une chute de bicyclette dans son jardin, il s'est fracassé le crâne.
Cogné la tête sur une pierre en tombant, il est mort peu après de la blessure à la tempe.
Mais
très dommage parce que c'est un magnifique compositeur,
Chausson. Belle musique. Hein. Et là, donc, ce concert, ça s'appelle concert, tout simplement, c'est pour violon, piano et quatuor à cordes. Donc, on a retrouvé le quatuor notturno et puis les deux solistes en question avec vraiment tout ce qu'il fallait de lyrisme exacerbé du premier mouvement, du rêve de la fameuse sicilienne, hein, qui est peut-être le mouvement le plus connu.
Et puis, une beauté extraordinaire.
Sorte de plainte du mouvement intitulé Grave, et puis qui se fonde dans l'exaltation, l'élan libérateur du final, qui est noté très animé.
Voilà, une première après-midi qui s'est très bien passée. Tous les concerts étaient complets. Je pense même qu'ils ont peut-être refusé du monde. Voilà donc pour les concerts du samedi. Et avant d'évoquer ceux du lendemain, je propose qu'on écoute un duo de musiciens programmé le dimanche, justement, Lilian Lefebvre et Vincent Martinet, qui jouent la rhapsodie pour clarinette et piano de Claude Debussy. La rhapsodie pour clarinette et piano de Claude Debussy, interprétée par Lilian Lefebvre et Vincent Martinet. Et c'est donc ce duo qui ouvrait l'après-midi du dimanche à 15h, avec un programme où apparaissait entre autres cette pièce. On s'est régalé de bout en bout avec eux, Serge, deux jeunes musiciens. Mais alors, quel talent, hein ?
Ah, un talent formidable, hein. Mais c'est un jeune duo, mais qui est déjà célèbre, hein. Parce que vraiment, c'est d'une qualité de tout premier plan. Alors, cette session, le premier concert du dimanche, était intitulée « Clarinette fin de siècle ». Et effectivement, avant de jouer cette rhapsodie pour clarinette, ils ont joué la sonate de Camille Saint-Saëns, dans laquelle la clarinette, c'est une voix humaine qui chante avec un lyrisme, une finesse, une intelligence. Et ensuite, une œuvre, alors, que pour ma part, j'ai découverte, de Charles-Marie Vidor, que l'on connaît surtout par ses œuvres pour orgue. Et là, c'est une introduction et rondo pour clarinette et piano, avec, alors là, des passages virtuosissimes que le clarinettiste franchit, mais sans la moindre difficulté, avec une aisance et sans ostentation, avec finesse et musicalité formidable. Et puis, après un très court entracte, nous avons eu droit à cette magnifique rhapsodie pour clarinette, de la poésie pure, hein, comme on a pu l'entendre.
Comme là, c'est l'affaire de Debussy.
Ah bah oui, ça c'était une merveille. Et puis, ça s'est achevé par une œuvre tout de même qui crée une rupture par rapport aux œuvres précédentes. C'est la sonate numéro 2 de Johannes Brahms. C'est un autre style auquel les deux interprètes se sont adaptés parfaitement et immédiatement. Et là, on a eu droit à un dialogue entre les deux instruments vraiment réjouissant. Ça a été, je dois dire, un triomphe, hein.
Oui, bah, mérité.
Du public. Et complètement mérité, au point que c'était pas prévu, mais ils sont venus quand même jouer un bis. Et ce bis, c'était le dernier mouvement de la sonate de Poulenc. Alors, c'est tout à fait différent comme caractère, évidemment, cette sorte d'impertinence.
Mais c'était bien de finir
de
par
Poulenc,
ça.
C'était magnifique, c'était très joyeux.
Vincent Martinet, qui est originaire de Toulouse, bah voilà encore une pépite sortie du conservatoire à rayonnement régional de Toulouse. Et puis, bah, Lilian Lefebvre et lui se sont connus au CNSM à Paris. Ils jouent souvent ensemble, tout en faisant chacun de leur côté de belles carrières en solo. Et je pense qu'ils n'ont pas fini de nous surprendre, ces deux-là. Alors, la suite à 16h30, c'était un concert intégralement dédié au piano seul, cette fois-ci, avec beaucoup de pièces au programme, jouées successivement par Louis G., François Schwarzentruber et Ariel Sirat. Les deux derniers, on en a déjà parlé, étant grands amateurs qu'on voit au festival depuis déjà quelques années, Serge.
Ah oui, oui, absolument. Alors, il y a trois pianistes. Alors, le jeune, il paraît qu'il faut dire Louis Gay.
Alors, moi, j'ai Louis Gay, je ne sais pas.
Ariel Sirat, qui était de retour, et François Schwarzentruber, de même. Tous les trois ont joué, donc, cette suite de pièces intitulée « Avant-garde modernité » par Serge Krichevski. Donc. Et là, on a eu droit vraiment à une progression dans un répertoire pas évident, hein, pas toujours facile. Alors ça a commencé, c'est le jeune pianiste qui a commencé, qui a ouvert la session avec une étude opus 42 numéro 5 d'Alexandre Scriabine. Et puis c'était suivi également par la quatrième sonate du même Scriabine, mais cette fois jouée par François Schwarzentruber. Puis ensuite il y avait la fameuse toccata opus 11 de Serge Prokofiev, qui est une folie complète de virtuosité, et vraiment que le pianiste a joué avec un talent admirable. Ensuite, du Respighist, un peu différent. Hein,
avec elle était très belle, cette pièce.
Due Pezzi, avec des contrastes, des couleurs magnifiques. Et toujours avec François Schwarzentruber, une pièce que, pour ma part, j'adore, la pièce qui s'intitule « Dans les brumes » et qui est de Léo Janáček, qui est une merveille pièce. Et comme très souvent chez Janáček, avec un drame sous-jacent derrière la description d'un chemin et de la brume qui le recouvre. Et enfin, il y a eu une œuvre qui est très rarement donnée, les ex-clavierstücke, c'est-à-dire les six pièces pour piano, d'Arnold Schönberg tout de même. Et je sais que ça faisait un peu peur à certains membres de l'assistance qui se sont dit « Oulala, du Schönberg, atonal, dodécaphonique. Bon. » Et c'est Ariel Sirat qui s'y est attaqué, je dois dire, avec beaucoup de talent et beaucoup de sérieux. Il a joué ces six pièces très courtes, il est vrai, sans partition. Et donc, bravo à lui. Hein, donc et alors, ce sont des pièces un peu minimalistes, hein, des miniatures, hein, une série de miniatures, mais très, très fortes. Et puis ensuite, il y a eu deux clavierstücke cette fois, mais d'un compositeur que, pour ma part, je découvrais, Joseph Marx.
Je pense que tout le monde le découvrait. Hein.
Voilà. Alors, c'est un peu post-romantique comme style. Et puis là, on est revenu à Claude Debussy avec l'impressionnisme de Brouillard, du livre 2 des Préludes.
On l'a eu dans les brumes, mais après on a eu Brouillard.
Ah oui, oui, ah bah oui, ça faisait partie du thème en quelque sorte. Hein. Et puis là, on a changé complètement avec le retour de François Schwarzentruber dans deux pièces. D'abord, une pièce de Scott Joplin.
Grand pianiste de ragtime.
Hein. Évidemment, un vrai ragtime. Et comme il l'a dit lui-même, avec la réponse d'Eric Satie à ce ragtime, avec la pièce Le Piccadilly, donc cette pièce assez souvent.
Ben voilà, avant-garde et modernité, on arrivait dans le jazz, les prémices du jazz. Très beau voyage que deuxième concert de l'après-midi. Et puis le concert de clôture a donné lieu à une fin de festival en apothéose.
Ah oui.
Il était consacré à la mélodie française, qu'il était impossible de ne pas aborder à un moment ou à un autre dans une programmation dédiée à la Belle Époque. Et on a eu le privilège d'y entendre l'excellent baryton Philippe Estef, excellemment accompagné aussi par la pianiste Éloise Urbain. Oui. C'était magnifique, vraiment un récital de très grande qualité, Serge.
Ah, absolument, avec une pianiste qui est non seulement une grande pianiste lorsqu'elle joue des pièces pour elle seule, pour un piano, et qui est une accompagnatrice qui enseigne même
l'accompagnement. Elle a la classe d'accompagnement au conservatoire de Toulouse.
Au conservatoire. Depuis longtemps, hein. Non, mais une grande, grande musicienne. Et alors, félicitons Philippe Estef. Hein. D'ailleurs, il a commenté lui-même le programme avec un timbre particulièrement bien projeté, un timbre riche et une diction excellente, un sens de la prosodie. Donc vraiment, c'était de toute beauté ce court récital avec d'une part du Gounod Ô ma belle rebelle, du Debussy, les trois ballades de François Villon, du Forêt, le lamento du pêcheur, Lydia, au bord de l'eau et tristesse, et puis du Bizet, alors avec une pièce étonnante, que Georges Bizet avait écrite pour Carmen et qui systématiquement...
Est coupé lorsque coupé on monte la production
dans
à l'opéra.
Bon. C'est, ça s'appelle la pantomime de Morales, un personnage de l'opéra, donc, qui l'a donné là, qui était vraiment très intéressante à écouter. Et puis du Chabrier, avec Chanson pour Jeanne, du Ravel, Ressort à son âme, évidemment. De nouveau, alors du Saint-Saëns, avec La Brise, et puis du Messager, avec l'air d'Obéron, extrait d'Isoline. Et puis il y a eu deux pièces pour piano seul, avec, et ça, il faut vraiment les remercier tous les deux, la troisième gnossienne d'Éric Satie, avec les indications d'Éric Satie lui-même sur la partition, complètement farfelue, hein, ahurissante,
que Philippe Estève lisait en même temps que Éloise Urbain jouait.
En même temps qu'elle jouait la pièce. Alors ça, c'est formidable. Alors avec des commentaires du genre « de manière à obtenir un creux » ou « conseillez-vous soigneusement », vous voyez le genre de commentaires.
Le Satie iconoclaste.
Très Éric Satie, voilà. Et donc, un formidable moment qui s'est prolongé par un bis extrait du Don Quichotte à Dulciné de Maurice Ravel, que Philippe Estève a chanté avec beaucoup d'éclat et de beauté.
Et vous oubliez un très beau moment, c'est quand Éloise Urbain a joué au piano seul, Pagode, extrait d'Estampe de Claude Debussy. Ça a été vraiment un moment suspendu pour moi, en tout cas.
Exactement, mais je crois pour tout le monde.
Elle l'a joué d'une manière, mais...
Ah oui, d'une finesse, d'une intelligence, d'une sensibilité, d'une musicalité. Donc, bravo à elle.
Oui, bravo. Formidable, Éloise Urbain. Bravo à elle, comme vous dites. Et pour vous faire entendre la belle voix de baryton de Philippe Estève, nous allons l'écouter dans une interprétation de la mélodie « Oh, ma belle rebelle » de Charles Gounod, écrite sur un texte d'Antoine de Baïf. C'est celle avec laquelle il a ouvert son récital dimanche soir au Palais Niel.
Puis-je un jour dire venger de ton injure, mon petit maître amour, te puis soutrir un jour, et pour moi langoureuse, il te fasse amoureuse, comme il m'a langoureux pour toi fait amoureux. Alors par ma vengeance, la connaissance quel mal fait du baiser un amant refusé, quel mal fait du baiser un amant refusé.
Oh, Ma belle rebelle, mélodie composée par Charles Gounod sur un poème d'Antoine de Baïf, chanté ici par Philippe Estef. Le jeune baryton a donc donné le récital de clôture de Musique au Palais 2023, accompagné au piano par Éloise Urbain dimanche, une fin en apothéose pour cette magnifique 8e édition qui aura affiché complet lors de presque tous les concerts du week-end. Un grand millésime qui laisse entrevoir de très belles choses pour les années à venir. Fin de cette première partie d'émission, on se retrouve dans quelques secondes avec l'ami Serge Chosy pour l'agenda de Mélomanie. Restez bien à l'écoute de Radio Présence. À tout de suite.
Mélomanie. L'agenda.
L'agenda de Mélomanie en compagnie de Serge Chosy. Alors cet agenda est particulièrement copieux cette semaine, comme je vous l'annonçais en début d'émission. Il se passe notamment beaucoup de choses à l'Opéra National du Capitole, où entre les représentations de Boris Godounov, deux concerts vont être donnés. Je rappelle au passage qu'il reste trois dates pour découvrir la nouvelle production de l'opéra de Moussorgski, les 29 novembre, 1er et 3 décembre. Entre-temps donc, ce jeudi 30 novembre, à 20h, rendez-vous avec Jordi Savall et ses ensembles Le Concert des Nations et la Capella Real de Catalunya. Le programme de cette soirée est sous-titré « Louange à la Vierge Marie, Serge ».
Oui, alors c'est un programme Marc-Antoine Charpentier intégralement, avec une grande quantité de courtes pièces, avec notamment le Canticum in honorem Beate Virginis Mariae, et puis la Symphonie devant Regina, etc. Et puis jusqu'à la Litanie de la Vierge à six voix et de dessus de viol. Enfin, tout est bien détaillé. Alors, évidemment, Jordi Savall est un expert en la matière, hein, il connaît très bien ce répertoire. Alors, c'est un répertoire intéressant parce que Marc-Antoine Charpentier est en quelque sorte, paradoxalement, un peu plus italien que son rival Mullioli.
Oui.
Ce qui est incroyable.
Oui, parce qu'il est allé en Italie rencontrer les voilà. compositeurs, les musiciens de l'époque. À l'époque, tout le monde allait un petit peu regarder du côté de l'Italie.
Hein. Oui, voilà. Et donc, le programme de ce concert est dédié au culte marial qui occupe une place toute particulière dans l'œuvre de Charpentier. Hein. Ferveur, tendresse, bon. Ce sont des bijoux vraiment de musique sacrée qui nous seront offerts ce soir. Là, donc je crois qu'il faut absolument y assister.
Oui, oui, et puis Charpentier est un compositeur très apprécié de Jordi Savall de longue date.
Oui, hein. De longue date, oui.
Nous allons écouter un extrait du Canticum in honorem Beate Virginis Mariae de Marc-Antoine Charpentier dans une version enregistrée par le Concert des Nations, c'était il y a près de 15 ans, sous la direction évidemment de Jordi Savall.
Thank you.
extrait du Canticum in honorem Beate Virginis Mariae de Marc-Antoine Charpentier dans une version enregistrée par le Concert des Nations sous la direction de Jordi Savall. Et puis toujours à l'Opéra National du Capitole, l'ensemble I Gemelli, fondé et dirigé par le ténor Emiliano González Toro, donne une version concert de l'opéra de Claudio Monteverdi, Le retour d'Ulysse dans sa patrie. Il y a une représentation ce mardi soir à 20h et une autre dimanche après-midi à 16h pour cette œuvre que, il est vrai, on a rarement l'occasion d'entendre sur scène, Serge.
Ben oui, à part Orfeo, et bon, Orfeo est très souvent donné, mais Le retour d'Ulysse, qui est une merveille, un magnifique opéra du créateur du genre, on pourrait dire, hein, Claudio Monteverdi. Et là, ça sera donné donc en version de concert, mais avec une mise en espace signée de Mathilde Etienne et avec une distribution au sommet de laquelle on retrouve Emiliano González Toro qui dirige son ensemble, mais qui joue le rôle d'Ulysse. Joue et chante le rôle d'Ulysse, avec pour Pénélope, Fleur Baron, et puis ensuite une kyrielle de chanteurs, tous des habitués de ce répertoire, pour cet opéra rare, et donc qu'on a beaucoup de chance d'entendre sur la scène du Théâtre du Capitole.
Donc c'est le retour d'Ulysse à Ithaque.
À Ithaque, exactement.
Mais cet opéra a quand même une petite histoire, parce que bon, d'abord c'est un des derniers qu'a composé Monteverdi, puisqu'il est créé en 1640, trois ans avant la mort du compositeur, et le manuscrit avait été perdu. En tout cas, on croyait qu'il était perdu à jamais. Il était retrouvé en 1880 à Vienne. C'était une copie manuscrite. Voilà, donc c'est un petit miracle qu'on puisse encore l'entendre aujourd'hui. Raison de plus pour ne pas le rater. D'autant plus que I Gemelli et Emiliano González Toro explorent le répertoire d'opéra de Monteverdi depuis pas mal d'années.
Ah oui,
ils avaient
absolument
donné Orfeo à l'Opéra National du Capitole il y a 4 ans.
Exactement, avec un énorme succès d'ailleurs. Oui, absolument.
Alors on va en écouter un extrait de ce retour d'Ulysse dans sa patrie, interprété par l'ensemble I Gemelli. Dorma ancora.
Al sonno, fratello della morte, altri ti chiama. Solingo trasportato, deluso ed ingannato. Ti conosco ben io, padre d'errori. Pur degli errori miei, son io la colpa. Che se l'ombra è del sonno, sorella o pur compagna, chi si confida all'ombra, perduto al fin contro ragion si ragna. Dei sempre sdegnati, nomi non mai placati, contro Ulisse che dorme ambo severi, vostri divini imperi, contro l'uman volersi fermi e forti, ma non colpi noi me, la pace è morta.
Dorma ancora, extrait du retour d'Ulysse dans sa patrie, interprété par l'ensemble I Gemelli et Emiliano González Toro, qui donne donc une deuxième fois en version concert l'opéra de Monteverdi ce samedi 2 décembre à 16h à l'Opéra National du Capitole. Avant cela, la veille donc, le vendredi 1er décembre, il y a malheureusement deux concerts le même soir, pile en même temps à 20h. Nous allons présenter d'abord celui de la saison Toulouse Guitare, qui accueille Raphaël Feuillâtre à la salle du Sénéchal. Le jeune guitariste va proposer un programme programme très varié où l'on trouve notamment des pièces baroques, mais pas seulement. Ce concert, comme d'habitude, est précédé d'une première partie donnée par un autre très jeune guitariste qui a la particularité d'être d'origine iranienne, Serge.
Exactement. Alors, Raphaël Feuillotre, lui, est originaire de Djibouti. Il est né en 1996, donc tout jeune guitariste. Et lui, il va jouer des œuvres. Alors, ça débutera par du Bach, rien d'étonnant, le prélude 1 en Do majeur, puis du Couperin, du Fli, du Tárega. Donc, on arrive au début du XXe siècle, là. Et puis, du Agustín Barrios Mangoré, que l'on connaît maintenant, grâce à
Thibaut Garcia, qui lui a consacré son dernier CD.
Voilà. Et puis, même du Piazzolla. Et puis, une œuvre de Roland Diens, qui a été le professeur du guitariste de Raphaël Feuillatre, donc avec aussi une œuvre contemporaine, en quelque sorte. Ça, c'est le programme que jouera Raphaël Feuillatre. Et puis, dans la première partie, c'est un jeune guitariste qui s'appelle Amir Hossein Shebani, et qui est d'origine iranienne, donc, et qui jouera trois pièces, avec du Jean-Sébastien Bach, puis des Fossa, un divertimento, et puis du Takemitsu, tout le même.
Ah, oui, intéressant.
Une œuvre contemporaine qui s'appelle Equinox. Donc voilà, un beau récital, double récital pour ce concert qui aura lieu donc dans la salle
du Sénéchal.
Voilà,
toute proche de la place du Capitole.
Oui, très bien adapté à ce genre de...
Tout à fait. Et puis, on va être évidemment très curieux de découvrir ce guitariste, ce tout jeune guitariste iranien, Amir Hossein Shebani, qui est élève de Judy Kael Perroy à Paris, fut un des maîtres de Thibaut Garcia, formidable enseignant. Et actuellement, Amir Hossein Shebani est en cycle de perfectionnement au Conservatoire à rayonnement régional de Montpellier. Il y a une très jolie pièce de François Couperin au programme du concert de Raphaël Feuillatre, Les Barricades Mystérieuses. Écoutez la superbe version qu'il en donne.
Thank you.
superbe interprétation des Barricades mystérieuses par Raphaël Feuillatre, une pièce qu'il a enregistrée sur un CD paru sous le label Deutsche Grammophon et qui est donc au programme du concert qu'il donne ce vendredi 1er décembre à 20h, salle du Sénéchal pour la saison Toulouse Guitare. Il y a donc un autre concert le même soir à 20h à la Halle au Grain où le cycle des grands interprètes a invité l'Orchestre Symphonique de Francfort et son chef, le français Alain Altinoglu. Il y a un second invité, Serge, le jeune pianiste canadien, Jan Lisicki. Alors, je ne sais pas si on dit Jean, si on dit Jan. Bon, je dis Jan à l'anglo-saxonne. Il est d'origine polonaise, bien sûr.
Oui, oui, mais il a 27 ans. Donc, c'est vraiment un jeune soliste. Hein. Et donc, il vient ici pour jouer le concerto pour piano et orchestre d'Edvard Grieg. Alors, grand concerto romantique, évidemment.
Qu'on a entendu il y a peu sous les doigts de Bertrand Chamaillou.
Exactement, exactement. Donc, on le retrouvera là avec cet orchestre, qui est un très bel orchestre, qui lui a été fondé en 1929. Hein. L'Orchestre Symphonique de Francfort, qui a porté plusieurs noms et donc qui a eu plusieurs grands chefs à sa tête, notamment Eliaou Imbal au début, et puis ensuite donc Alain Altinoglu, le français, qui lui est depuis 2014 professeur de la classe de direction d'orchestre au Conservatoire de Paris. Donc,
classe vraiment très recherchée, hein. Son enseignement est très recherché à l'Altinoglu.
Et puis il occupe également le poste de directeur musical du Théâtre Royal de la Monnaie depuis janvier 2016, hein, donc en tant que chef invité, et il est régulièrement
il
demandé
carrière,
dans le monde entier. Ouais. Hein, donc il fait
à juste titre,
une très belle carrière.
Ouais.
Alors que le jeune pianiste, lui, bon, et a déjà travaillé en étroite collaboration avec des chefs d'orchestre aussi célèbres qu'Antonio Papano, Yannick Nézet-Séguin, Manfred Honeck ou Claudio Abbado. Il a même été dirigé par Claudio Abbado. Donc il sera le soliste de ce magnifique concerto de Grieg. Et puis il faut dire que le concert va s'ouvrir sur une ouverture d'ailleurs, avec l'ouverture dans la nature d'Antonin Dvorak, en fait qui constitue la première partie d'un triptyque qui est intitulé « Nature, vie et amour » du grand compositeur tchèque. Et puis ensuite, pour terminer, ce sera la célèbre pièce « Tableau d'une exposition » de Moussorgski évidemment, mais qu'on entend le plus souvent dans l'orchestration de Maurice Ravel. Il y a eu d'ailleurs d'autres orchestrations que celle de Maurice Ravel, mais qu'on n'entend jamais.
Oui, enfin, celle de Ravel est tellement extraordinaire.
Elle est tellement géniale que...
On peut comprendre.
Voilà.
Et bien justement, c'est toujours un bonheur d'écouter en concert les tableaux d'une exposition dans l'orchestration de Maurice Ravel. Voici « La grande porte de Kiev » interprétée par l'Orchestre symphonique de Francfort. La grande porte de Kiev, extrait des tableaux d'une exposition dans une version de l'Orchestre symphonique de Francfort, qui donne donc le chef-d'œuvre de Moussorgski dans la superbe orchestration de Maurice Ravel à la Halle au Grain, vendredi 1er décembre à 20h, sous la direction d'Alain Altinoglu. Il y a également au programme l'ouverture de In der Natur de Dvorak et le concerto pour piano de Grieg avec Jan Lisicki au clavier. Dernier rendez-vous à noter sur vos agendas cette semaine, et non le moindre, le concert que donne l'Orchestre national du Capitole samedi 2 2 décembre à 20h, toujours à la Halle au Grain, un concert événement puisque nous allons avoir la joie de retrouver à la direction Tarmo Peltokoski, le futur directeur musical de l'orchestre, et aux côtés du jeune chef finlandais, nous aurons une autre vedette de la scène classique, Renaud Capuçon, qui va jouer rien moins que le concerto pour violon de Schoenberg, accompagné par les musiciens du Capitole. C'est, alors, ça, c'est une œuvre très rare aussi.
Ah, rarissime. Alors, elle est beaucoup plus rare que le concerto à la mémoire d'un ange d'Alban Berg, qui lui est donné un peu plus souvent. Mais donc, nous allons revoir enfin Tarmo Peltokoski, dont il faut rappeler que ce n'est qu'à compter du 1er septembre 2024 qu'il occupera les fonctions dites de directeur musical désigné. Et donc, il n'assurera vraiment sa charge entière de directeur musical qu'à partir de la saison 2025-2026.
Donc, c'est pour ça que je disais futur directeur musical, voilà, parce futur, que beaucoup de gens le considèrent déjà. Ben non, pas encore. Hein, voilà.
Bien qu'il a été nommé le 20 décembre 2022.
Oui, la nomination est annoncée, mais elle est un peu différée tout de même.
Elle est différée. Donc, on va le retrouver à la tête de l'orchestre. Alors, d'une part, donc, en accompagnant Renaud Capuçon pour le concerto pour violon d'Arnold Schoenberg, mais également le fameux poème symphonique de Richard Strauss, Ainsi parlait Zarathoustra, à parler ou par là, parce que le texte allemand ne précise pas si c'est parler ou par là, c'est Sprach.
Oui, Also Sprach.
Also Sprach, voilà. Donc, le poème symphonique, bon, hyper célèbre, évidemment, hein, donc on sera heureux d'entendre sous la direction de ce chef extraordinaire. Et puis, il y aura également l'ouverture des Maîtres chanteurs de Nuremberg de Richard Wagner, puisque Tarmo Peltokoski est un passionné de Wagner.
Un wagnérien vraiment passionné, effectivement. Absolument. Et il a hâte, je le sais, ça, de diriger un opéra de Wagner au Capitole, ce qui devra arriver dans les années prochaines, parce qu'il est entre autres venu à Toulouse pour diriger des opéras, et en particulier des opéras de Wagner.
Exactement.
Nous allons écouter un dernier extrait dans cette émission, le très célèbre début d'Ainsi parlait par là Zarathoustra, le poème symphonique de Richard Strauss, et c'est dans une version de l'Orchestre National du Capitole. Le début d'Ainsi parlait Zarathoustra, fameux début, dans une version de l'Orchestre National du Capitole, qui redonne le poème symphonique de Richard Strauss à la Halle au Grain ce samedi 2 décembre à 20h sous la direction de Tarmo Peltokoski. Au programme également le concerto pour violon d'Arnold Schoenberg avec Renaud Capuçon soliste et l'ouverture des Maîtres chanteurs de Nuremberg, l'opéra de Richard Wagner. Les réservations et l'achat des places sont à faire en ligne sur le site www.onct.toulouse.fr, mais je vous préviens, c'est déjà complet. Vous pouvez toujours tenter votre chance, on ne sait jamais. C'est la fin de ce 250e numéro de Mélomanie. Un grand merci à Serge Chosy de m'avoir très efficacement assisté, comme toujours, dans son animation. Je rappelle que Boris Godounov, l'opéra de Moussorski, est encore à l'affiche de l'Opéra National du Capitole jusqu'au 3 décembre, dans la mise en scène d'Olivier Py. Il reste 3 représentations les 29 novembre, 1er et 3 décembre. Réservation et billetterie en ligne sur le site www.opéra.toulouse.fr, adresse à laquelle vous pouvez aussi acheter vos places pour le concert que dirige Jordi Savall à la tête du Concert des Nations et de la Capella Real de Catalunya, jeudi 30 novembre à 20h. Le programme de cette soirée est sous-titré « Louange à la Vierge Marie ». Et puis samedi 2 décembre à 16h, toujours à l'Opéra National du Capitole, l'ensemble Igemelli donne en version concert « Le retour d'Ulysse dans sa patrie », l'opéra de Claudio Monteverdi. Je rappelle enfin les deux concerts du vendredi 1er décembre à 20h, celui du guitariste Raphaël Feuillâtre à la salle du Sénéchal pour la saison Toulouse Guitare, billetterie en ligne à l'adresse www.toulouseguitare.fr, et celui de l'Orchestre Symphonique de Francfort avec le pianiste Yann Lisiecki à la Halle au Grain sous la direction d'Alain Altinoglu pour le cycle des grands interprètes. L'adresse du site pour réserver www.grandsinterprètes.com. Tous mes remerciements à Christophe Aubry qui a réalisé cette émission. Podcast disponible et téléchargeable dès aujourd'hui comme d'habitude sur le site web de Radio Présence. Et merci à vous tous qui nous écoutez fidèlement chaque mardi et mercredi. Je vous souhaite une très bonne semaine musicale. Vous avez vu, il y a de quoi faire.